RLP.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe.
Il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours!
Cet adversaire. C'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui,
une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Salut au Périgord, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle série qui va rester un petit peu politique, que j'ai nommée les acteurs moins visibles. Je vais inviter de plus en plus de personnes qui sont acteurs du territoire, des gens qu'on voit moins que des politiques. J'ai invité aujourd'hui Nicolas Robin, qui est acteur de la permaculture, formateur, conférencier, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Librairie Permaculturelle. Bonjour Nicolas.
Bonjour Luc.
Et Aline, donc, qui est paysanne herboriste. Bon, elle est animatrice aussi dans une émission d'RLP qui s'appelle Entreprendre avec la permaculture. Bonjour Aline.
Bonjour Luc.
Donc, que j'ai invité pour compléter en fait mon questionnement sur la permaculture parce que je suis novice de ce thème, mais très intéressé par des changements de comportement. Donc, l'émission va être ouverte pour comprendre un peu ce qu'est la permaculture et à quoi ça peut nous servir dans notre vie de tous les jours. Et il faut que j'annonce aussi Émilie qui aujourd'hui est à l'enregistrement. Salut Émilie. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter dans votre présentation ?
Oui, moi, une chose plutôt importante, c'est mon métier actuellement, c'est libraire. Donc, je m'occupe de la librairie permaculturelle que j'ai fondée il y a une dizaine d'années.
D'accord. Et qu'on peut retrouver sur Internet, évidemment.
Oui, c'est une librairie en ligne, donc librairie-permaculturelle.fr. D'accord. Et je suis basé aux alentours de Thiviers, en Dordogne.
On le rappellera en fin d'émission. Ouais. Aline, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ce que j'ai fait comme présentation
de toi ? Non, tout est parfait.
C'est bon ? Ok. Donc, c'est quoi la permaculture ? Est-ce que vous pourriez définir, pour commencer toi, Nicolas, est-ce que tu pourrais définir en quelques mots ce qu'est la permaculture ?
Bon, le dictionnaire donne une définition qui est parlante, mais qui n'est pas très imagée. C'est mode d'aménagement écologique du territoire qui vise à produire de la nourriture et à renforcer l'écosystème. En fait, il y a tous les mots-clés dans cette définition, sauf que l'image qu'on peut s'en faire mentalement, en fait, elle n'est pas très explicite. Mais en gros, c'est on aménage le territoire pour que nous, les êtres humains, on puisse vivre dessus de bonne manière.
D'accord. Aline, toi, tu aurais une définition autre ?
Alors moi, j'aime bien dire que la permaculture, c'est un outil, une philosophie qui nous aide en fait à mettre en place des écosystèmes, des projets qui sont abondants, durables et résilients à l'image de la nature.
D'accord. Vous êtes d'accord avec la...
Ah oui, c'est très bien ce qu'elle a dit. En fait, oui, la permaculture, c'est très vaste et chaque permaculteur a sa définition, quoi.
Ben, on va en parler parce qu'en préparant l'émission, du coup, j'ai lu 2-3 choses et en échangeant aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs manières d'aborder le sujet. Mais d'abord, un petit peu d'histoire. À quand est-ce qu'on peut estimer les débuts de la permaculture ?
Eh bien, c'est dans les années 70, alors je ne sais plus l'année exacte, mais en gros, c'était la sortie du premier livre qui s'appelait Permaculture, tome 1, qui a été écrit par David Holmgren, donc, qui était étudiant en design de l'environnement en Tasmanie, c'était une île au large de l'Australie. Là. Et il habitait chez un des professeurs de l'université, qui louait une chambre d'étudiants en fait, qui était Bill Mollison, qui lui tenait la chaire de psychologie de l'environnement. Et en fait, ces deux-là, tous les soirs, donc comme ils habitaient sous le même toit, ils discutaient entre eux. Et c'est à l'issue de leur discussion qu'ils ont créé la permaculture. Et donc le premier livre qui est sorti sur le sujet, en fait, c'était le travail de fin d'études, de thèse de David Holmgren. Voilà. Donc la naissance de la permaculture et la première utilisation du mot, c'est à cette date-là, quoi.
D'accord. Ah oui, l'utilisation du mot. Ouais, parce qu'on peut distinguer l'utilisation du mot et des pratiques. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont plus ancestrales que ces deux personnages-là ?
Ben, je dirais, en fait, les principes de bon sens de la permaculture, comme je viens de le dire, sont des principes de bon sens. Donc ils existent, ils appartiennent à tout le monde, ils existent depuis longtemps. Donc je pense que la permaculture a un petit truc de supérieur par rapport à tout ce qui se faisait avant, c'est qu'elle a réussi à regrouper à mon avis, tous les principes de bon sens. Et elle en a fait un tout cohérent, qui permet à n'importe quel être humain qui s'en saisit d'agir de bonne manière.
D'accord.
Mais auparavant, effectivement, il y a plein d'êtres humains qui utilisaient déjà plein de principes de bon sens et qui faisaient peu ou prou un truc qui ressemblait à de la permaculture.
Ouais. Mais du coup, ça me pousse à la question, depuis quand on peut estimer que l'être humain, il se comporte en tant qu'acteur de permaculture ? Est-ce que nos ancêtres avant ce monsieur...
Moi, je vais inverser ta question. Partir de quand l'être humain ne s'est plus comporté selon les principes de la permaculture ?
Ah bah j'avais, hein. Y a-t-il des moments d'inconscience ?
Ouais, ouais. Dans l'avènement du capitalisme et puis de l'énergie facile, quoi, abondante.
D'accord.
Voilà.
Ah, du coup, ça...
Tout ce qui a permis de saccager la planète. Et d'ailleurs, bah, tiens, l'histoire de la permaculture, comment Bill Mollison en est venu à penser la permaculture à ses débuts ? En fait, lui, il habitait en Tasmanie, dans un petit village où ils vivaient quasiment tous en autonomie. Ils étaient multifonctions. Ils savaient tous cultiver, pêcher, fabriquer des objets, les réparer, etc. Et au travers des différents métiers qu'il a fait, notamment les métiers où il était très en contact avec la nature, il s'est aperçu que les ressources en poissons étaient en train de s'amenuiser. Il s'est aperçu que dans la forêt, il y a plein d'espèces qui disparaissaient. Il y a plein de maladies qui apparaissaient. Et en fait, il s'est rendu compte que ce qui générait ça, c'était le soi-disant progrès. Donc l'énergie facile, la capacité à polluer, etc., pour toutes les grandes entreprises.
D'accord.
Et c'est à la suite de cette prise de conscience qu'il s'est dit, mais je ne peux pas laisser faire ça, il faut que je revienne... Enfin, il s'est retiré et il s'est dit, il faut que je revienne avec quelque chose qui puisse servir le monde, quelque chose d'utile. Et donc c'est l'idée de permaculture, voilà avec quoi il est revenu.
Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça ? Toi, tu l'aurais daté à quand ?
En effet, Bill Mollison, c'est souvent la première personne qu'on cite. Je trouve ça chouette parce que j'apprends plein de choses sur lui. Merci Nicolas. Et je trouve ça très beau aussi de dire que finalement la permaculture regroupe tous les principes de bon sens. Parce que c'est vrai que quand on lit sur la permaculture, c'est un très bel outil qui va venir regrouper plein de choses, mais qu'on faisait en fait depuis un peu toujours et qui vient remettre du bon sens, des simples gestes en fait. Ouais. Dans notre quotidien, alors on va le voir au jardin et au contact avec la terre, mais en fait après dans tous les autres domaines de notre vie. Et c'est vrai que souvent le bon sens revient beaucoup en fait dans les principes de permaculture.
D'accord.
Exemple concret, le recyclage des déchets par exemple. Quand l'être humain n'avait pas d'énergie abondante et qu'il était pauvre, c'est-à-dire que tout le monde était paysan en gros, on pouvait pas se permettre de jeter ou de ne pas utiliser une ressource. En permaculture, le principe, c'est que les déchets sont des ressources. D'accord. Un déchet ne devient une pollution qu'à partir du moment où cette ressource n'est pas utilisée, où elle devient surabondante et qu'elle crée des troubles dans l'écosystème. Mais quand on n'utilise pas de plastique ou pas de produits industriels, en fait, tout est réutilisable à souhait, quoi.
D'accord. Bah, du coup, il y a, de ce que j'ai compris, certains fonctionnent avec des principes. Du coup, tu m'as parlé de 12 principes. Ouais, qu'est-ce que tu...
Il y en a plein d'autres. En fait, il n'y en a pas que 12. Il y en a, je ne sais pas, mais il y en a au moins une trentaine, voire si ce n'est plus. Aujourd'hui, même je crois que les principes qui ont été écrits par Bill Mollison et par son étudiant, donc Herm Green, sont différents. Donc déjà là, on a une diversité même entre les deux personnes qui, vont dire, ont mis en place ce courant-là. Aujourd'hui, je pense que pour simplifier un peu les choses, on parle de 3 grandes éthiques et de 12 principes. Et c'est vrai que quand on veut démarrer, c'est bien de démarrer pas à pas, hein, au pas de sa porte, et donc démarrer petit. Ça, c'est notamment un principe de permaculture. Et du coup, démarrer déjà avec ces 12-là, c'est déjà chouette. Parce que chaque principe, en fait, nous amène à beaucoup, beaucoup de réflexions. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, dans tous les domaines de notre vie. Et nous, on se rend compte que quand on a démarré cette émission-là, donc l'émission « Entreprendre avec la permaculture », l'idée, c'est de se dire comment chacun de ces 12 principes, on peut les appliquer à nos entreprises. Et en fait, c'est des journées de discussion juste sur un principe pour 3 entrepreneurs.
D'accord.
Donc c'est presque un peu infini. En fait, on pourrait détricoter les choses et aller dans la réflexion... c'est un peu infini. Donc déjà, démarrer avec 12, c'est déjà bien. Et puis après, en effet, c'est pas exclusif. Il y en a plein d'autres. Et puis, il n'y a pas de hiérarchie non plus entre les principes. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre, des pratiques. Ouais. On peut tirer au fusil sur les gens derrière nous ou pas? Oui, alors il faut expliquer que derrière, il y a des travaux. Et les petits bruits que l'on entend sont des gens qui sont en train de faire du béton. Oui, est-ce que vous pouvez mettre en lumière au moins une ou deux pratiques de permaculture qu'on puisse raccorder à un principe, qu'on voit un petit peu concrètement? Même si, de toute façon, le concept va nous paraître abstrait tant qu'on ne pratique pas, mais est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux pratiques comme ça qui nous éclairent?
Oui, oui, oui. Sur les 12 principes là, qui sont traduits dans la langue de David Holmgren, on va dire. Ouais. Chacun utilise sa langue pour les traduire. Par exemple, le principe de redondance. Une fonction est assurée par plusieurs éléments. C'est un principe de redondance. Dans le langage commun, on dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, chez un permaculteur qui veut être autonome, eh ben, par exemple, s'il veut installer un système de récupération d'eau de pluie pour alimenter sa maison, il aura tout intérêt à rester branché sur le réseau d'eau. Parce que si un jour il a un problème avec son réseau autonome d'eau de pluie, eh ben, il aura en sauvegarde le réseau d'eau de la ville.
Et est-ce que toi, tu peux nous donner...
Oui. Alors, par exemple, il y a un autre principe qui dit observer et interagir. Ce principe-là, par exemple, au jardin, c'est un peu l'idée de se dire, avant de mettre des choses en place, notamment des cultures en terre, on observe. Donc on observe déjà ce qu'il y a naturellement en place, parce que peut-être qu'il y a déjà des plantes qui poussent là et dont on peut se servir. On observe aussi le sol, du coup, quel type de sol. Et ces observations-là, on essaye de les faire à chaque saison. Donc dans un monde idéal, on observerait en fait un terrain sur 4 saisons avant d'implanter tel ou tel type de culture.
D'accord. Et du coup, dans l'émission que vous menez, comment vous le raccordez à l'entreprise?
Avec toujours cette notion d'observer peut-être ce qui se passe autour de nous avant de proposer un nouveau produit ou un nouveau service. Après, au sein de l'entreprise, il y a aussi cette notion de soi-même. Si on n'est pas entièrement aligné avec ce que l'on propose, finalement, l'entreprise, elle ne fonctionne pas.
Il y a combien de courants de pensée dans la permaculture?
Je dirais qu'il y en a autant que de permaculteurs et permacultrices. Il y a quand même la grande école de permaculture, c'est Bill Mollison et David Holmgren, ceux qui ont forgé le concept. Après, il y a d'autres courants importants qui existent. Celui de Zeb Holzer, c'est un Autrichien. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La permaculture » de Zeb Holzer. Il a défini ses principes à lui, qui sont c'est quasiment du copier-coller de ceux de Mollison et Holmgren. Sauf que quand il a écrit ça, il ne les connaissait pas du tout. Il ne connaissait pas la permaculture.
D'accord.
Et ce qu'il a créé, c'est ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la permaculture.
Ok.
Pourquoi ils sont arrivés au même résultat? Parce qu'il a eu les mêmes réflexions que Mollison, parce qu'il a observé la nature, parce qu'il avait envie de prendre soin de son territoire, enfin de sa ferme en l'occurrence. Et quand on voit le monde avec un regard bienveillant, en fait, on arrive aux mêmes conclusions, quoi, aux mêmes principes de bon sens.
Là, oui, c'est marrant comme vous raccordez, ça se sent, là tu viens de l'exprimer, mais vous raccordez en fait le bon sens avec la bienveillance ou au moins une attention pas destructrice du territoire, une utilisation très mesurée, très en retrait du territoire.
Ça me paraît essentiel pour assurer notre survie, quoi.
Peut-être, je ne sais pas. Je suis peut-être un gros capitaliste. On va faire une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle We Change et avec un morceau qui s'appelle La Permaculture.
Radio Libre en Périgord.
Voici une chanson qui parle de permaculture. La permaculture, c'est imiter la nature en l'observant avec attention. Tout un programme pour manger des aliments sains et diversifiés toute l'année et faire plein d'économies. Dans mon jardin, y a le composteur de ma sœur, les vers de terre de mon petit frère. Dans mon jardin, y a le réservoir rempli d'eau pour arroser mes artichauts. Si je perds ma culture, c'est que j'aime la nature. Si je perds
permaculture. C'est que j'aime la nature. Dans mon jardin, j'ai mis des légumes et des fruits, un beau parterre de fleurs aussi. Dans mon jardin, j'ai mis une ruche pour les abeilles. C'est bon pour les fleurs et le miel. Si je perds ma culture, c'est que j'aime la nature. Si je perds ma culture, c'est que j'aime la nature. Dans mon jardin, je couvre ma terre de paille pour qu'elle garde l'eau de la pluie. Dans mon jardin, pour éviter les parasites, je fais pousser du basilic. Si je perds ma culture, c'est que j'aime la nature. Si je perds ma culture, c'est que j'aime la nature. C'est que j'aime la nature.
RLP.
C'est que j'aime.
De retour sur RLP, autour du thème de la permaculture. Donc on était autour des courants de pensée de la permaculture. Mais il serait intéressant de rentrer un petit peu plus dans les pratiques. Est-ce que vous pouvez donner d'autres pratiques, histoire d'éclaircir un peu pour les gens qui sont comme moi, qui sont un peu novices sur le sujet. Je pose cette question, je veux qu'on rentre un peu plus dedans, parce que je me suis rendu compte que c'était pas très accessible en regardant sur les réseaux sociaux, et que c'était un petit peu élitiste, boboisé, ou d'un milieu social. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois pratiques qui nous permettent de comprendre que c'est accessible à tous, et que c'est important pour tous?
Pratique au jardin,
tu veux commencer? Pratique au jardin, je peux. Pratique, je peux vous donner un exemple très concret que je me pose en ce moment même. On m'a offert un figuier. Moi, en tant que permacultrice, j'ai un plan de mon jardin que j'ai dessiné avec les différents éléments qui sont positionnés sur ce plan. Donc j'ai ma maison, j'ai ma ressource d'eau, j'ai mon jardin de plantes médicinales, mon cabanon, ma serre, mon poulailler... Et en observant tous ces éléments-là, je vais me dire, où est-ce qu'il irait mieux le figuier? Il a besoin de quoi? Avec quelle plante il pourrait s'associer? Est-ce qu'il a besoin d'eau? Est-ce qu'il a besoin d'ombre? Est-ce qu'il a besoin d'un sol, etc.? Et en fonction de toutes ces petites réponses-là que je vais apporter autour de mon figuier, je vais pouvoir le positionner au mieux dans mon jardin pour que déjà il puisse s'épanouir comme il le souhaite. Et après, pourquoi pas être associé avec... d'autres plantes compagnes qui pourront ensuite accompagner sa croissance.
D'ailleurs, est-ce que... Pardon, tu n'avais peut-être pas terminé.
Non, c'est typiquement le genre d'application qui va m'aider, que je peux me poser en permaculture, dans mon jardin.
Est-ce qu'il y a des lieux, des références où on peut trouver ces mises en lien? Parce que où est-ce que comment tu sais qu'un figuier peut aller avec telle plante? Tu vas le chercher où, ça?
Alors là, il existe plusieurs bouquins qui justement référencent ce qu'on appelle des guildes. Les guildes, ce sont des associations de plantes et notamment des associations de fruitiers avec d'autres plantes. Donc tout ça, là on rentre dans du côté assez technique et concret de... mais finalement qui rentre complètement dans la permaculture. Souvent, on part d'un rêve. En permaculture, on part d'un rêve, d'une vision. Et alors là, toutes ces ressources-là, on peut les trouver dans des bouquins d'associations de plantes potagères.
D'accord.
Moi, il y a une formation avec des formateurs que j'aime beaucoup, qui s'appelle Permaculture Design, où ils proposent plein de guildes différentes avec des fruitiers, mais il y a aussi plein de bouquins.
Nicolas ?
La réflexion qu'elle a tenue pour... son figuier, ça fait partie du design en permaculture. Le design en permaculture, c'est vraiment le sujet de la permaculture. C'est ce que disaient les fondateurs, quoi.
D'accord.
Et en gros, le design, c'est faire un dessin à dessin. Ça veut dire que je vais faire le plan de mon terrain en vue de. Et ce qu'on attend d'un design, souvent, c'est qu'il soit productif, c'est-à-dire qu'il nous apporte de la nourriture, que ce soit... des plantes ou que ce soit des animaux, etc., qu'il apporte de l'énergie, Je peux designer mon terrain pour que ça récolte de l'eau, par exemple, ou de l'énergie, du soleil. Le design, c'est aussi pour régénérer l'écosystème. Donc tout ce que je vais faire est censé régénérer l'écosystème. Notamment l'eau, on a un principe sur l'eau qui dit que toute l'eau qui entre dans notre terrain, il faut qu'elle ressorte de la même qualité ou de meilleure qualité. Mais en tout cas, on ne rejette pas une eau qui est plus polluée, quoi. Voilà. Et donc de cette manière, on contribue à régénérer l'écosystème. Et donc le design, c'est... oui, alors quand on fait des formations en permaculture, c'est le design qu'on apprend. C'est ça qui est transmis.
D'accord. Est-ce que, juste pour approfondir dessus, on va dessiner ça avec des mots, le design? En fait, ça fonctionne par zone. J'ai assisté à une de tes conférences, donc au moins j'ai retenu ça. Ça fonctionne par zone, le design.
Le zonage, c'est un des trois outils essentiels du design. Les trois outils, c'est le zonage, ce sont les secteurs, et le troisième, c'est l'analyse fonctionnelle des éléments.
On va le prendre un par un.
Voilà.
Le zonage, qu'est-ce que c'est ?
Le zonage, on considère que l'endroit où l'on vit, c'est-à-dire la maison, c'est la zone centrale, et qu'à partir de cette zone centrale vont rayonner toutes nos autres activités, tous nos autres éléments qui sont sur notre terrain de jeu. Donc, très souvent, sur un terrain de permaculteur, il y a un potager, il y a un petit poulailler, il peut y avoir aussi d'autres animaux, il y a peut-être un petit bout de forêt pour faire son bois de chauffage, etc. Et en fait, chacun de ces éléments nécessite... plus ou moins d'attention, plus ou moins de surveillance, plus ou moins de maintenance. Et en fait, en fonction de ce degré, on va les mettre plus ou moins proches de la maison, de la zone centrale. D'accord. Ce qui fait qu'on va économiser du temps de trajet, voilà, en gros.
Et de l'accessibilité, etc.
Tout ça. Donc ça, c'était le premier outil. Le deuxième, c'est l'analyse des secteurs. On met notre maison au centre d'une carte, et puis on va essayer d'analyser toutes les énergies qui vont entrer ou traverser notre terrain. Donc les énergies, c'est le soleil. Mmh. Le soleil, ça génère de l'ombre. Donc on repère sur notre terrain où est l'ombre, par exemple, où il y a beaucoup de soleil, quelles sont les orientations, etc. On repère le vent, on repère les vues, on repère le bruit, puisqu' on peut être à côté d'une autoroute, je ne sais pas, ou d'un, etc. Des pollutions, c'est pareil.
Des maçons.
Voilà. Et donc, une fois qu'on a repéré toutes ces zones sur notre terrain, on va essayer d'y placer les éléments qu'on veut y mettre au meilleur endroit. Le potager, par exemple, on ne va pas le mettre dans une zone où il y a de l'ombre et où il y a beaucoup de vent. On va le mettre dans une zone qui est ensoleillée, qui est protégée des vents, etc. Dans un premier temps, on repère les secteurs favorables. Et dans un second temps, si besoin, on va créer des secteurs. On peut créer des microclimats, par exemple.
J'insiste dessus pour bien qu'on comprenne... que, par exemple, les tomates, elles vont peut-être pas forcément dans un rang au bout du jardin, mais elles vont peut-être dans un autre endroit du terrain, parce que dans cet endroit, il y a quelque chose qui est plus favorable pour elles. Et elles peuvent ne pas être à côté des poireaux ou à côté de la préparation d'un pot-au-feu, par exemple. Parce que quelquefois, moi, je me l'imagine comme ça, le jardin. Je vois quelque chose de carré. Mon père avait un jardin ouvrier. Et donc les poireaux étaient à côté des oignons, étaient à côté...
Mais ça, c'est fonctionnel, hein. Un petit jardin ouvrier où tout est, même en ligne, c'est... ce qu'on attend d'un jardin, c'est qu'il produise. Et les jardins ouvriers, très souvent, ils produisent beaucoup, très bien. Parce que les gens s'en occupent, en fait.
Donc tu parlais zonage, secteur, et le troisième, c'est...
Troisième outil, donc l'analyse fonctionnelle des éléments. Donc l'élément qu'on prend classiquement en permaculture pour illustrer ça, c'est la poule. On va analyser la poule selon trois choses. Ses besoins. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de nourriture, elle a besoin de grit. C'est le petit gravier qui lui permet de broyer dans son estomac. Elle a besoin de chaleur, etc. Elle a des productions. Donc elle produit des œufs, elle produit des fientes, elle perd des plumes. Elle produit du bruit. Donc tout type de production. Elle produit de la bagarre aussi, ça se frite les poules.
Ouais.
Et la troisième chose, ce sont ses caractéristiques intrinsèques. Donc sa race, qui va nous dire si elle est plutôt pondeuse, si c'est plutôt couveuse, et si c'est plutôt une poule pour un poulet, quoi, pour la manger, etc. Et ensuite, pour chaque élément de notre système, donc potager, poulailler, compost, mare, etc., qu'on veut mettre sur notre terrain, on va faire cette analyse-là, et on va regarder, tiens, ce besoin de tel élément, peut-être qu'il peut être rempli par la production de tel autre élément. la fiente de ma poule, eh ben, peut-être que ça peut remplir le besoin de fertilité de mon potager.
D'accord.
Le fait que mes poules grattent tout le temps la terre pour trouver à manger, peut-être que ça peut aider à déparasiter mon verger.
D'accord, et donc on arrive à cette idée de recyclage permanent. Ouais. Okay.
L'important dans cet outil, ce n'est pas tant le recyclage, c'est plutôt le placement relatif. On va placer sur notre terrain les éléments les uns par rapport aux autres pour qu'ils se soutiennent entre eux.
Ouais, c'est complexe quand même. Hein. C'est...
Ah, et du coup, on crée des systèmes qui sont plus autonomes, donc aussi moins besoin de nous, hein, dans l'idée d'y mettre aussi le moins d'efforts possible, entre guillemets. Le permaculteur, on dit que parfois il est un petit peu fainéant, mais en fait c'est l'idée de rendre ces systèmes-là le plus autonomes possible et résilients.
Mais c'est vrai, quand je vous regarde, je pense que vous êtes fainéants tous les deux.
Bon, mais ça c'est le Graal, hein, de ne plus avoir rien à faire et de laisser travailler la nature.
Ouais, ouais.
En vrai, ça ne marche pas comme ça.
Et bien ça, je pense que c'est une des idées principales de la permaculture qui peut donner envie. C'est le fait de réfléchir avant pour éviter de faire trop pendant.
Mmh. Tout à fait.
Moi, c'est ce que j'en ai gardé.
Ben, je vais être un peu grossier, mais un truc que je dis que je disais dans mes stages, la permaculture, si t'es con, tu fais de la permaculture de con. Si t'es intelligent, tu fais de la permaculture intelligente. C'est vraiment en fonction de ce que tu es, quoi. La permaculture te ressemble.
Bon, vous entendez les auditeurs, regardez-vous d'abord. Et peut-être que ça vous donnera un petit peu ce que ça va donner dans le jardin. On va faire une autre pause musicale avec un groupe qui s'appelle Formidable Vegetable Permaculture. Non, ça c'est le titre. Formidable Vegetable Permaculture de Kid Retro Suburbia.
RLP.
Our streets are radish neighborhood. We planted every seed we could. So it would let us turn up all the beats. We sent our roots deep underground and new ideas bloomed all around. We're all digging, living on our street. Cause there's goats and chickens, bees and birds and fruit growing on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. We started off by baking bread and turned out baking bricks instead. The chickens reckon we're out of control. Fixed up old and rusty bikes, now we cycle away. Getting by for free is how we roll. With the goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Our garden's now immense, 'cause we pulled down the fence. Well, that might sound intense, but we're friends with common sense.
RLP. De retour sur RLP, la bonne question. Alors, avec nos deux invités, Nicolas et Aline, on était sur l'explication un petit peu de l'organisation de la permaculture sur un terrain, donc avec des idées de zonage, de secteurs, de création de secteurs ou d'observation de secteurs et d'analyse un peu de ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte qu'en fait, il faut être très contemplatif pour entrer dans la permaculture. Il faut être plus qu'observateur, mais relativement très contemplatif. Du coup, Aline, toi qui es en pleine pratique là, pour produire des petites herbes, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus?
Par rapport à ça, moi, l'exercice que j'aime bien faire, c'est je me balade sur mon terrain et il y a des endroits où j'aime bien m'arrêter, m'asseoir et où je me sens bien. Et dans ces endroits-là, je crois qu'en permaculture, ça a un nom, les sites Bon, en fait, c'est un peu l'idée de se dire, on s'assoit à un endroit où on se sent bien, et puis là, on observe, et juste, on profite. Et ces lieux-là, ils sont hyper précieux, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on se balade sur un terrain, alors qu'il soit à nous ou pas à nous, parfois on peut aussi le faire dans le cadre d'exercices sur d'autres lieux, en fait, on se sent pas bien partout. Et d'avoir un endroit dans votre jardin où vous vous sentez bien et vous avez juste à vous asseoir, ça peut être très bien un endroit où vous dites, là, je vais mettre un banc. Oh, je vais mettre un banc parce que qu'est-ce que je me sens bien à cet endroit-là. Et le soir, là, après les grosses journées, on va s'asseoir sur ce banc, ne serait-ce que 5 minutes, et... Ouf.
Comme si tu t'étais mis à la place d'une plante qui cherchait sa place dans le terrain, en fait.
Oui, ça peut être ça, complètement. Et le jardin, il a ce pouvoir-là aussi que de nous rendre bien, de nous rendre heureux, de nous rendre légers. Et en fait, hein, quand on dit rien que s'adosser à un arbre ou, mm-hmm. ou se mettre pieds nus par terre ou...
Oui, sans être trop chamanique, mais effectivement, il y a des espaces où on se sent mieux que d'autres, ne serait-ce que dans notre maison, dans notre chambre.
Ce côté contemplatif, moi, je le perçois comme ça quand...
Oui, et tu disais en off que, du coup, toi, ça t'a permis de trouver des solutions, c'est comme un déblocage.
Oui, parce qu'en fait, donc moi, j'ai fait un doctorat en sciences de l'environnement au Québec pendant 6 ans. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé d'arrêter la recherche et de me lancer dans l'agriculture. Ah, je ne venais absolument pas d'une famille agricole. Mmh. Et là, je me suis dit, c'est chouette, mais je commence par où et je fais comment? Et en fait, là, je suis tombée sur un livre de la ferme du Bec-et-Loin qui est une référence en permaculture aujourd'hui. Et j'ai lu leur histoire et je me suis dit, mais en fait, c'est possible. C'est possible de démarrer à travailler la terre sans avoir aucune connaissance dans le monde agricole. Et même, je pense que ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Et du coup, la permaculture m'a vraiment donné cette solution en me disant, pars de ces principes-là, pars de cette façon-là de faire et tu arriveras à mettre en place tout ce que tu veux dans ton jardin. D'accord. Et ça a été du coup une solution.
D'accord. Oui, c'est pas une psychothérapie, c'est une, comment on peut dire, c'est un calibrage que tu fais.
Là, ça a été une solution très concrète. C'est-à-dire, moi, j'arrivais sur un terrain, j'avais pas de machine, j'avais pas d'outils, j'avais peu de connaissances. Grâce à la permaculture, j'ai su analyser mon sol, analyser quelles plantes j'avais sur mon terrain, démarrer une culture sans outils mécaniques. Voilà. Tu vois, ces petits détails-là qui m'ont montré que, en fait, sans rien, finalement, on peut démarrer, et puis on peut démarrer tout en régénérant aussi la diversité et le sol sur lequel on travaille. Parce que c'est vrai que quand moi, je me suis dit, j'aimerais me lancer dans l'agriculture, mais comment? Parce que les techniques d'aujourd'hui, quand même, elles peuvent faire un peu peur. Et en fait, voilà, c'est aussi des outils très concrets qui m'ont aidé qui m'ont montré une voie sur... travailler le sol, mais de manière écologique, en régénérant, en aggradant la biodiversité.
Oui. J'ai eu la chance ce week-end, je le donne en information, mais j'ai eu la chance d'aller au concours de labour qu'il y avait à Saint-Jean-de-Caulle ce week-end, et j'ai appris que 30% des agriculteurs, en fait, ne venaient pas du monde paysan. 30% des gens qui s'installent, une personne sur trois qui s'installe, n'est pas du tout, est plutôt novice, et n'est pas du tout du monde paysan. Donc j'espère que ça vous aide à ne pas avoir peur pour prendre une pioche ou une fourche, ou juste vos yeux pour aller dans votre jardin.
Et même pour l'élargir un peu, moi c'est pareil, je venais de faire un doctorat, donc le monde de la recherche, j'étais salariée, et là je me mettais à mon compte en tant qu'entreprise. L'entrepreneuriat c'est un peu pareil, pour moi c'était une totale découverte. J'ai des parents qui étaient fonctionnaires, donc pareil, je ne baignais pas du tout dans ce milieu-là. Et là, on se dit, mais comment démarrer? Et puis, comment démarrer avec des valeurs qui me ressemblent, sans justement se rapprocher d'un capitalisme qui ne nous donne pas forcément du sens? Et les outils de la permaculture peuvent aider aussi à ça. Et moi, ils m'ont aussi un peu donné des clés pour mettre en place une entreprise qui a du sens, qui est aligné avec mes valeurs, qui est aligné avec ce que je souhaite mettre en place au plus profond de moi et du coup qui m'ont donné des clés comme ça au fur et à mesure.
Et du coup, tu n'as pas eu peur de te tromper ou d'avoir des rectificateurs qui viennent te voir en disant « tu fais pas bien là hein. ». Alors Nicolas les appelait les cons tout à l'heure. Mais il n'y a pas eu de crainte comme ça
Ben en fait... Non, pas tant que ça. Je me suis plutôt sentie aiguillée et épaulée avec une méthode, en fait. Des outils, une méthode. Et puis, il y a un des principes aussi en permaculture qui dit le problème et la solution. C'est chouette aussi de se dire que finalement, dès qu'on fait face à un problème ou un changement, on y trouve toujours une solution. Et en fait, ça nous aide aussi à être plus créatifs.
Ouais.
Et souvent, quand on est plus créatif, après, c'est plus abondant, plus résilient.
Tu voulais réagir sur les cons, Nicolas ? Enfin, ou les gens qui
ne oui.
sont pas toujours bienveillants ?
Oui, non, c'est pas exactement ça. Mais Aline disait que la permaculture, c'était une révélation pour elle. Et moi, ça a été pareil. Quand je travaillais à Paris, je trouvais que le boulot que je faisais nourrissait pas grand-chose.
Tu faisais quoi comme boulot avant ?
J'étais géomètre. Mais la moitié des prestations que je faisais, en fait, servaient à rien. Je trouvais ça con de travailler pour... C'était juste pour faire tourner de l'argent, quoi. Et donc, je suis parti, sac sur le dos, j'ai fait du woofing en France et j'ai découvert la permaculture. Et ça a été effet waouh aussi. Ça nourrissait mon lien à la nature, ça nourrissait mon désir de bon sens, mon désir d'œuvrer à quelque chose de positif. Donc je me suis formé, je suis devenu formateur, et j'ai découvert le milieu de la permaculture et sa sociologie, quoi.
Ouais, ouais.
Et en fait, quand on découvre quelque chose qui nous paraît tellement évident et tellement bien, et c'est là, je pense, qu'on devient un petit peu sectaire.
D'accord, tu as retrouvé les gens que j'ai vus sur,
c'est ça.
Sur les réseaux sociaux, d'accord.
Donc, dès que tu apprends quelque chose et que tu vois quelqu'un faire pas comme il faut, et tu lui fais remarquer.
Ouais.
Mais en fait, c'est une manière inconsciente et maladroite d'ancrer ces bons principes en soi, quoi.
Ah, de se rassurer, en fait, ouais. Sur ses pratiques. D'accord.
Mais tu vois, à l'époque, moi, où j'ai découvert la permaculture, la grande technique au jardin que tout le monde appliquait, c'était les buttes de culture.
Oui, j'ai déjà vu ça. Ils font des tas.
C'est ça. Tu remontes un petit peu la terre. Comme ça, c'est un peu plus surélevé. Tu as moins à être baissé, etc. Bon, en fait, ce n'est pas confortable du tout de travailler sur une butte. Bon, ça dépend des corps de chacun, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Mais les permaculteurs faisaient des buttes systématiquement. Moi, ce que j'ai analysé, en fait, c'est que c'était l'œuvre du pénitent. Ça veut dire que les permaculteurs qui ont vécu... une vie capitaliste merdique avant la révélation de la permaculture, en fait, quand ils ont la révélation, ils s'en veulent. Et pour se flageller, ils vont se faire chier à fabriquer des buts.
Ouais.
Parce que c'est compliqué, c'est long à faire, fabriquer des buts.
Ouais, d'accord. L'œuvre du pénitent, ouais.
C'est ça. C'est leur chemin d'expiation. Et après, ils se rendent compte, parce qu'ils ont eu le temps d'imprégner un petit peu mieux les principes de permaculture, qu'il faut agir le moins possible pour essayer de faire le plus grand changement, quoi.
Eh bien ça, tu vois, pour moi, c'est la parole la plus importante de tout le message que moi, j'en ai compris, en tout cas. Rechercher au moins en faire le moins possible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, vous me paraissez être deux beaux feignants. Et feignantes. Donc, j'en sais rien, je viendrai visiter ton jardin et puis je regarderai la masse de travail qui a été faite. Parce que je pense que l'observation, c'est un gros, gros travail. Et l'analyse aussi. Je ne dirais pas que... Parce que pour le coup, comme j'étais confronté à cette idée un peu élitiste, je me suis dit, c'est quand même chier, alors que le jardin, ça ne devrait pas être quelque chose de très complexe. Si, il y a quand même une complexité à voir, mais ce n'est pas celle qu'on croit. En fait, c'est la complexité à voir, c'est celle de son terrain.
C'est la réflexion.
Oui, le travail en amont.
C'est la compréhension de son terrain, en fait, la complexité.
Tu vois, petite anecdote, en Cuba, qui était sous embargo, là, il y a un moment, c'était dans les années 90, je crois, 80 peut-être, ils ont fait appel à des permaculteurs australiens. Parce que comme ils n'avaient plus de pétrole, il n'y avait plus rien pour nourrir l'agriculture, et donc il y avait une production qui baissait fortement. Et donc, ils ont appelé une équipe de permaculteurs, ils leur ont prêté une maison dans une petite ville. Et les permaculteurs, donc, ils ont commencé à installer les hamacs dans le jardin de la maison. Et puis, ils buvaient des mojitos, et puis, ils discutaient entre eux, etc. Ils allaient danser un peu la salsa. Et au bout d'une semaine, Ils étaient là pour 2 semaines. Au bout d'une semaine, les voisins, ceux qui avaient fait appel à eux, s'inquiétaient un peu. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi ils font ça, là? On leur a demandé de bosser et de nous aider, quoi. Et puis, le 8e jour, il y a eu le déclic. En fait, ils se sont mis à tout retourner le jardin. Enfin, retourner, c'est un grand mot, mais à tout aménager le jardin différemment pour qu'il devienne productif. Toute la semaine, la première semaine qu'ils avaient passée, en fait, c'était semaine d'observation, de réflexion, de recherche de ressources qu'ils auraient pu utiliser pour essayer de comprendre comment fonctionne un petit peu la vie de la ville, etc. Et voilà, une semaine d'observation-réflexion, une semaine de mise en place.
En fait, ils ont fait la technique que je fais avec mon fils. Elle me dit, papa, tu dors? Non, je réfléchis.
Voilà.
Ouais, ok. On va faire une autre petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Pang feat. Monkey Mix, et le titre c'est Fais-le.
BX Bruxelles, BX Bruxelles, c'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille, alors retiens ce conseil si t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles. BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fait pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions, tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête, ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des potimarrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walbay?
Demande ta camarade et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walbay?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté. TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le bois, mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power.
Radio Libre en Périgord.
De retour sur RLP, la bonne question, avec nos deux invités, donc sur la permaculture. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, synthétiser, faciliter la compréhension de la permaculture, histoire que les gens soient rassurés, ils peuvent le pratiquer assez facilement, assez aisément? Comment vous synthétiseriez le...
Première étape, c'est au jardin. Donc cultiver son potager avec du paillage, par exemple, où on arrête le motoculteur. La grelinette, ça suffit pour aérer le terrain. Et on mixe les cultures, voilà. Pas forcément que des rangs de légumes, unilégumes, mais on peut en mettre plusieurs l'un sur l'autre.
D'ailleurs, on n'arrête pas le motoculteur parce qu'il utilise de l'essence, on l'arrête parce qu'il n'est pas utile.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de nécessité d'aérer la terre avec un motoculteur.
Parce qu'il y a quelquefois l'idée un peu de revenir au fonctionnement des Amish, c'est-à-dire pas de choses mécanisées dans le jardin. Mais ce n'est pas cette idée-là, en fait, que vous défendez, vous.
Non, là, c'est une question d'échelle. Un petit potager familial, il n'y a pas besoin de motoculteur.
D'accord.
Une grelinette pour aérer, si besoin. Si le terrain est compacté, une grelinette pour aérer le terrain, c'est largement suffisant. Et après, si on utilise des stratégies permacoles sur sol vivant, eh ben, on peut se passer complètement de travail du sol. Ce sont les vers de terre qui aèrent le terrain, donc, en créant des galeries, etc. Le motoculteur, ça tue les vers de terre.
Aline ?
Alors moi, peut-être que je pourrais profiter de cette occasion pour parler de l'ikigai. L'ikigai, c'est un outil qu'on utilise aussi en permaculture. Ikigai, ça veut dire raison d'être. Et en fait, l'idée de cet outil-là, c'est de trouver en un mot, un verbe, notre raison d'être. Et ça nous permet de partir toujours, finalement, de soi. Et quel que soit le projet qu'on met en place, qu'il soit au jardin ou dans la création d'une entreprise, dans la vie familiale ou une asso, Mais à partir du moment où on part de soi et de cette raison d'être là, on trouvera toujours les ressources pour mettre en place notre projet.
Tu le raccordes beaucoup à la personnalité des gens, l'acte permaculture ?
Oui, parce que je trouve que ça part de là en premier.
D'accord. Mm. C'est sa conviction qui fait démarrer l'action.
Tout à fait. Et je le vis un peu au quotidien, où quand je suis sûre de ce que je fais, que je suis sûre d'être alignée avec ce que je fais, ça roule tout seul.
Bon, Nicolas, est-ce que tu veux bien nous donner deux, trois informations sur la librairie ? On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ta librairie ? Comment on y accède ? Quelles sont les références ?
L'origine de la librairie, c'est quand j'étais en train de me former à la permaculture, il n'existait que deux livres traduits en français. Du coup, j'ai lancé un petit mouvement pour favoriser, faciliter la traduction de livres. Et c'est à la suite de ça que la librairie est née, quoi. Donc elle distribuait les premiers ouvrages qui ont été traduits en langue française, notamment par des associations comme Imagine un colibri ou Passerelle Éco. Et à la suite de ça, la librairie a grandi, tous les éditeurs se sont saisis du sujet et ont sorti leurs bouquins sur la permaculture, des livres plus ou moins bien. Et donc à chaque fois, je les proposais, lors de mes formations notamment, parce que moi j'étais au contact du public qui avait besoin de ces livres. Et puis à un moment, j'ai élargi la thématique sur l'autonomie. Comme les permaculteurs, ils sont très en recherche d'autonomie, de résilience, d'autosuffisance. Et du coup, aujourd'hui, dans la librairie, donc, on aborde les thèmes de production alimentaire, de conservation alimentaire, d'énergie, d'éco-construction, mais aussi des thèmes plus liés au vivre ensemble, c'est-à-dire la transition de nos sociétés ultra-dépendantes du pétrole, l'éducation, la santé alternative, etc.
Oui, on en avait parlé parce que j'ai fait beaucoup de liens aussi avec l'éducation. Et dans ce que vous avez dit, ça fait 20 ans que je bosse dans l'éducation et j'ai vu beaucoup de liens, notamment sur ce qu'on appelle la pédagogie, les méthodes d'accompagnement de l'enfant. J'ai vu beaucoup de liens sur le fait d'être contemplatif et d'observer ce qui se passe pour trouver des solutions. Je prends un exemple assez parlant, je pense, pour accorder le thème de la permaculture, c'est l'aménagement d'un espace. Quand on aménage des espaces pour un enfant, on l'aménage selon soi. Mais en fait, l'enfant, il ne va pas l'utiliser comme nous, on le voit. Parce que lui ne rend pas les choses utiles comme nous les rendons utiles. Exemple, mon fils, j'ai un marteau, c'est fait pour planter des clous, ben lui, il a calé une porte avec. Et ben, dans un espace, il fonctionne pareil, les enfants. Ils se servent de l'espace comme eux se sentent dedans. Et en fait, quand on observe ça, on s'aperçoit que si nous aménageons l'espace selon leur utilisation, eh ben ça devient beaucoup plus fonctionnel pour eux, mais beaucoup moins agité et plus facile à remettre en place. Parce que du coup, ça part d'eux. Et j'ai trouvé beaucoup de liens en écoutant la conférence et puis en écoutant aussi, en discutant avec Nicolas, je trouvais beaucoup de liens. Et je m'aperçois qu'il y a d'autres liens qui se font, notamment avec l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise ? Est-ce qu'on peut venir voir le jardin ? Parce que tout à l'heure, j'ai dit je viendrai le voir, mais peut-être qu'on ne peut pas venir le voir.
Oui. Alors, le jardin, il s'appelle Madame Paquerette. Et du coup, donc on est dans un hameau qui s'appelle Beaupuis, qui est rattaché à la ville de Périgueux. On ouvre le jardin à minima 4 fois par an. Parce qu'en fait, on propose des événements à chaque saison. L'idée du jardin de Madame Paquerette, c'est de proposer des remèdes qui nous permettent de nous connecter à la saison dans laquelle on est ou de passer d'une saison à l'autre. Donc nous, on travaille vraiment à l'échelle de la saison. Et du coup, à chaque début de saison, on fait un petit événement où on invite les gens pour leur expliquer quels sont les remèdes que nous, on a préparés pour les aider à passer cette saison-là. Et en même temps, on fait toujours une petite activité autour des plantes. Donc là, on rentre bientôt dans la saison d'automne. Donc on invite les gens le samedi 28 septembre. Ça se passe de 10h30 à midi. Et donc là, c'est vraiment un temps où on se rencontre. On montre le jardin où il en est aussi à la saison. Bon, là, en ce moment, il y a surtout des graines, il n'y a plus beaucoup de fleurs. Et puis en même temps, on parle vraiment des remèdes que l'on fait pour la saison qui arrive.
Donc, d'accord. Est-ce que tu produis des lectures ou des infos ou du contenu sur Internet? Est-ce que...
A un site Internet où le site Internet, c'est plutôt un site vitrine qui montre en effet des photos du jardin, comment on cultive. Nous, on part vraiment de la graine au remède. Donc, on récolte nos graines, ensuite on les sème, on les plante, on récolte les fleurs et on fait des transformations type tisane, huile, vinaigre, miel. Donc là, il y a toute une panoplie de transformations. Donc sur le site internet, on peut regarder ça. Sur le site internet, vous pouvez aussi voir les ateliers. On propose pas mal d'ateliers d'herboristerie. Donc l'idée, c'est aussi de transmettre notre savoir-faire. Donc on explique aux gens comment composer une tisane, comment faire une huile de soin, comment faire un vinaigre aux plantes. Et puis de temps en temps, on fait des journées d'initiation à la permaculture. Sur une journée, et là c'est en co-animation avec Arnaud, on a tous les deux un cours certifié en permaculture. Je vous en parlerai un petit peu, peut-être plutôt dans les biblios, là.
Ouais.
Et lui, il est plutôt axé sur l'arbre. Donc voilà, on fait aussi des petites journées comme ça sur la perma. Et là, vendredi dernier, on a fait une journée où on a proposé de faire un design sur une journée. Donc on a eu toute la matinée d'observation et toute l'après-midi de réalisation. Ça va très vite.
Ouais, ouais.
Mais en fait, on se rend compte aussi que la permaculture à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Ouais,
et quand on est dans des phases comme ça, notamment de design, donc de réflexion, quand on est plusieurs, la réflexion, elle va plus loin, elle est plus rapide et on est beaucoup plus efficace. Donc c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai des gens qui me disent « Oh, je ferais bien un design en perma sur mon terrain », je conseille toujours « Invite quelques amis, parle-lui tes projets, ton rêve, tes objectifs et réfléchissez à plusieurs parce que ça facilite vraiment le travail. »
Et du coup, comment on fait pour être au courant des événements, pour l'un comme pour l'autre? Parce que toi, dans les conférences, comment on fait pour être au courant des conférences que tu fais et où est-ce qu'on peut les retrouver? Et pareil pour toi, Aline, comment on fait pour être au courant des dates de ces journées-là et...
Oui, nous, on a une lettre d'information. Donc là, vous pouvez aller sur le site internet Madame Pâquerette. Vous vous inscrivez à la lettre d'information, puis on envoie des lettres d'information tous les 2 mois qui récapitulent tous les ateliers, tous les événements, qui donnent aussi des petites astuces sur les plantes médicinales, les petits rituels à faire par saison. Notre fil conducteur, c'est vraiment les saisons. Et puis après, comme beaucoup, on est sur les réseaux Insta, Facebook. On essaye de tenir à jour les pages.
D'accord. Et toi, Nicolas?
Eh bien, pour la librairie, sur le site internet de librairie-permaculturelle.fr, on peut s'inscrire à l'infolettre. Donc c'est principalement là que je diffuse les informations, l'agenda. Et donc, comme c'est lié à la librairie, c'est aussi là où on voit les nouveautés qui sortent.
Et pour les conférences, alors?
Si j'en fais qu'elles sont ouvertes, elles sont annoncées dessus. Mais bon, la plupart du temps, c'est... je laisse l'organisateur de la conférence faire la communication. Quoi.
D'accord.
Et donc la librairie, vous pouvez la retrouver principalement en ligne. C'est aussi possible de passer dans les locaux, c'est-à-dire chez moi, aux alentours de Thiviers. Et il y a aussi une petite extension de la librairie qui se situe dans le tiers-lieu Langar à Thiviers. Donc un ancien hangar SNCF qui a été racheté par un mécène. Et donc, qui m'a demandé d'y mettre une petite librairie adossée au café associatif. Voilà.
D'accord. Alors, on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des références à nous donner? Des livres, des films, quelles que soient les œuvres du passé, mais qui peuvent nous permettre de regarder demain?
Et bien, sur les lieux, le plus connu en France, le plus médiatisé, c'est la ferme du Bec-et-Loin, qui a été... qui a commencé à être médiatisé vers 2011-2012. Et donc, ils ont écrit des livres. Donc, c'est Charles, Hervé Gruyer et Perrine ont écrit 2 livres qui sont très intéressants. Le premier, c'était La permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes.
C'est celui-là que j'ai lu. Ouais.
Voilà. qui donne vraiment envie de mettre les mains dans la terre. Leur second qu'ils ont écrit, c'est « Vivre avec la Terre ». C'est un énorme pavé en 3 volumes où ils expliquent leur méthode. C'est des livres très imagés, explicatifs, qui donnent vraiment envie de passer à la pratique. Le livre de référence, c'est le livre de Bill Mollison, qui s'appelle Introduction à la permaculture, qui explique très bien les concepts de permaculture, très imagés aussi, avec beaucoup de croquis. Et après, il y a plein de livres qui existent sur le sujet, quoi.
D'accord.
Si on veut faire plus du design, je dirais plutôt le manuel de permaculture pas à pas de Rosemary Moreau. Si on est étudiant en design, il y a aussi des livres sur le sujet. Si on est plus orienté jardin, il y a par exemple Jardin de Gaïa qui est intéressant, qui propose plein de tableaux de plantes pour avoir les guildes par exemple. Enfin, il faut aller sur le site de la librairie, ils sont tous référencés. Voilà.
Oui. Aline, est-ce que tu as des références ?
Oui, moi je pourrais parler de l'Université populaire de permaculture. C'est une université, je crois, mondiale. Mais en tout cas, il y a une antenne en France. Et sur leur site, vous pouvez avoir accès aux différentes formations. En fait, les formations en permaculture, elles sont un peu codifiées et elles vont... reprendre un peu tout le même sommaire. Hein. Donc, il y a des formations d'initiation à la permaculture sur 2 jours. Après, il y a des formations qu'on appelle des CCP. Donc là, c'est les cours certifiés en permaculture qui durent entre 10 et 15 jours. Et après, il y a les diplômés de l'université qui, là, sont les personnes qui sont intéressées à créer des designs en permaculture. Et du coup, sont souvent tutorés par quelqu'un qui est déjà diplômé. Bon, là, c'est un peu le niveau au-dessus. Mais en fait, il y a un petit peu 3 niveaux comme ça. Et sur le site de l'Université populaire de permaculture, eh ben, vous retrouvez toutes les formations qu'on retrouve partout en France. Et il y en a vraiment partout. Et moi, je sais que j'ai fait du coup le cours certifié en permaculture, donc de 15 jours, il y a maintenant 6 ans. Et quand j'ai eu terminé cette formation de 15 jours, je me suis dit, mais en fait, tout le monde devrait faire cette formation. Ça devrait être obligatoire. Vraiment obligatoire pour tout le monde. À partir de quel âge ? Peut-être, on va se dire 16-18 ans, histoire peut-être d'avoir un peu plus les idées claires.
Avec le brevet de secourisme.
Voilà. Ah, mais complètement.
Et le BSR.
Complètement.
D'accord. Bah, on va se dire... bonne continuation. Je suis désolé pour les travaux qu'on a entendus, hein, parce qu'à la radio, il y a quelques travaux derrière nous. Mais c'est bien, ça prouve que la radio est toujours en train de grandir et qu'elle s'améliore. Il y a un accès qui s'est fait pour les gens en fauteuil, donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez venir nous voir. J'espère qu'on vous a donné envie... de pratiquer la permaculture, au moins de regarder un petit peu ce qui se passe sur ce thème. Moi, ça m'a tellement parlé, pas pour le pratiquer, mais pour le mettre en correspondance sur les attitudes humaines, parce que bah, dans mon travail, c'est beaucoup ça qu'on regarde. Du coup, j'espère qu'on vous a donné envie de pratiquer, de prendre une petite bêche, une petite pioche, et de regarder ce qui se passe. Évidemment, si vous habitez... dans un bâtiment, c'est un peu plus dur, mais vous pouvez peut-être regarder autour de vous s'il n'y a pas des jardins partagés, s'il n'y a pas des gens déjà qui font des choses. Et voilà, ben, je vous remercie d'avoir été présent à cette émission et merci pour vos explications. Moi, personnellement, j'ai tout compris. Alors, si vous n'avez pas compris, renvoyez sur le site de RLP. Nous n'avons pas compris et nous ferons une autre émission pour approfondir un petit peu. Merci Nicolas de ta présence.
Merci Luc.
Merci Aline.
Merci Luc.
Et merci Émilie. Bon courage à vous, au revoir et à bientôt.
Lui, c'est lui et moi, c'est moi. Oui.
Dans cette bataille qui s'engage, yes. Je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours ! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.